Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre.
Rencontre avec folle furieuse. Que faire de nos colères d'Élodie Pinel. Publié chez Robert Laffont. J'ai rencontré Élodie Pinel au Mans dans un café. Elle a bien voulu, une fois de plus, répondre à mes questions. Donc, bonjour Élodie Pinel, merci de bien vouloir répondre une fois de plus à mes questions. Tu viens de publier Folle Furieuse, Que faire de nos colères, chez Robert Laffont. Est-ce que tu peux nous expliquer comment en es-tu venue à écrire ce livre sur la colère féministe ?
Alors, je suis venue à cette idée après des discussions avec des amies autrices, avec l'éditrice Sophie Rouanet de Robert Laffont, parce qu'on avait, on faisait tout le constat d'une fatigue de notre génération, c'est-à-dire de femmes d'une quarantaine d'années, trentaine parfois, cinquantaine aussi, et ce qu'on constatait, c'était qu'on avait une lassitude qui était associée à nos engagements, en fait, qui n'était pas juste, mais c'est déjà beaucoup, une lassitude liée à la charge mentale propre aux femmes, dans une situation où encore aujourd'hui la majeure partie des tâches domestiques sont inégalement réparties, justement, mais aussi liée à nos engagements et à la difficulté à coordonner nos convictions au quotidien, avec déjà un emploi du temps très chargé, et toutes ces situations où on ne sait plus quoi dire, quoi faire, on ne sait pas comment réagir, on se sent coupable de ne pas relever une remarque sexiste ou une discrimination, et en même temps on ne peut pas être au front tout le temps. Et donc c'est ce constat-là de dilemme permanent qui m'a amené à proposer un axe qui est celui du continuum d'un engagement, en fait, dont les réactions vont de la fatigue à la colère, puisque je me suis rendu compte que tout ça était lié et avait la même cause, en fait, hein, qui était cette situation permanente de vigilance, de discrimination, malgré les progrès. Et qu'il y avait un gap entre les progrès constatés dans certains domaines, qui parfois sont majeurs et parfois sont plus anecdotiques, le discours qui dit que tout va bien, qu'on est sur la bonne voie, et puis la perduration d'un certain nombre de difficultés quand même très grandes, des chiffres qui font toujours aussi peur de féminicide notamment, mais c'est juste la pointe émergée de l'iceberg, et que tout ça tendait à disqualifier justement un combat, et à le disqualifier aussi par la pathologisation, donc par l'accusation de folie. Et j'ai été aidée en cela par les lectures notamment de Pauline Chanu, évidemment, son travail sur l'hystérie, et par un certain nombre de publications récentes sur la notion de folie, du lien entre folie et résistance, par Claire Touzard par exemple, pas mal d'écrits féministes qui émergeaient aussi à ce moment-là et qui m'ont permis de prendre du recul par rapport à cette idée et de la synthétiser un petit peu plus efficacement.
Alors justement, c'est à la fois un travail universitaire et personnel. Je voudrais d'abord parler du travail, on va dire, universitaire. Comment est-ce que tu as rassemblé toutes les données ? Parce que c'est comme souvent, comme toujours, je dirais, dans tes écrits, c'est-à-dire que ce livre est presque comme un dictionnaire, c'est-à-dire que quand on le lit, on se dit « Ah, il faut que je note, ça je ne l'ai pas lu ».
Je me suis rendu compte de deux choses. La première chose, c'était que pour ce livre-là, j'avais besoin à la fois de rendre hommage et aux consoeurs féministes, confrères aussi, hein, il y en a quelques-uns, et à ne pas répéter ce qui avait déjà été dit, ce qui me semble quand même la moindre des choses, et ça c'est vraiment la méthodologie de recherche, un souci d'honnêteté intellectuelle et scientifique, et d'autre part de faire un pas de plus, puisque l'idée c'est pas de faire une synthèse, un bilan, mais c'est de proposer à partir de ça autre chose, un pas en avant. Et donc pour ça, je me suis enfermée dans ma cabane d'écriture et j'ai délocalisé toute ma bibliothèque féministe et je l'ai mise devant moi et ça a commencé à faire des grandes piles. Et je n'avais pas pris conscience non plus de l'importance de l'extension de cette bibliothèque en fait. Donc c'était bien de l'avoir matériellement sous les yeux pour pouvoir picorer dans tel ou tel bouquin en dehors des seules sources internet sur lesquelles on se replie le plus souvent maintenant parce que ça devient notre premier réflexe en fait d'aller chercher la citation dans tel article et de varier les sources. Mais d'avoir les livres, vraiment, ça c'était vraiment une grande aide. Et puis je me suis rendu compte aussi, ça c'est la deuxième chose, que c'était une méthodologie de travail qui était partagée par beaucoup d'autrices féministes aussi. Et je l'ai analysée comme un besoin d'étayer nos analyses sur des faits, qui est en fait là encore une réaction à la disqualification et au fait qu'en permanence, enfin, en tout cas très très souvent, on nous renvoie à l'idée que ce qu'on propose n'est que de l'opinion, n'est que le fruit d'une subjectivité, voire d'un point de vue. Et nous, on sait en théorie féministe que bien souvent en effet le savoir est situé et qu'il faut interroger cette situation, mais on n'arrête pas de le faire nous, d'interroger ces situations. Et par contre, réduire notre analyse à une situation, c'est en fait la disqualifier. Et je me suis rendu compte que c'était en effet une démarche fréquente et heureusement d'avoir beaucoup de chiffres, beaucoup de sources, des notes de bas de page, et j'avais des éditrices, j'ai des éditrices depuis quelques années, qui elles-mêmes, je rajoute une couche sur les notes de bas de page, là où parfois, quand on écrit pour le grand public, on nous incite à moins en mettre, à moins mettre de sources. Et bien sur les sujets féministes, on nous demande d'en mettre davantage, pour être moins attaquable, et pour avoir tout un argumentaire clé en main, en fait. Et c'est aussi ça que je voulais offrir aux lecteurs et lectrices, des données chiffrées, des données théoriques, des définitions. Donc il y a un glossaire à la fin de l'ouvrage hein, avec, qui renvoie à la fois aux premières personnes qui ont élaboré un concept, parfois un concept a beaucoup voyagé et on ne sait plus trop qui l'a baptisé en fait hein. Et on se rend compte que c'est quand même beaucoup de femmes dont on oublie le nom aussi, et il y a des Françaises aussi dans l'eau, donc ça c'est sympa, avec les dates pour voir aussi à quel moment les choses ont bougé et comment est-ce que se sont diffusées, pas toujours au même rythme. La France est souvent en retard pour l'absorption de certaines théories qui viennent d'ailleurs. Et donc tout ça, ça constitue une boîte à outils, en fait, pour moi, à l'usage de celles et ceux qui auront envie de prolonger la réflexion et même d'ouvrir le dialogue autour d'eux, en étant nourris, en fait, de ces réflexions-là.
Tu as construit, comme tu disais, ton essai en deux parties. La première partie s'appelle « Féministe au bord de la crise de nerfs » et la seconde « Éloge de la fureur ». Est-ce qu'on peut dire que d'abord, comme tu le disais, c'est le constat, et ensuite, la fureur, c'est les solutions ?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est, en fait, c'est une réversibilité de la rage. C'est-à-dire que la rage est une réaction légitime. J'avais besoin, dans un premier temps, de partir à la recherche des causes, parce qu'il y en a toujours plusieurs, hein, un phénomène, donc les causes de cette émotion, pour justement mener l'enquête sur sa valeur. Quand on la disqualifie, on pose une pétition de principe en disant que par principe, l'émotion n'est pas entendable dans le raisonnement et que par principe, cette émotion-là en particulier, qui est la colère, est répréhensible, aveugle et donc va être mauvaise conseillère. Hein. C'est même un proverbe, hein, la colère est mauvaise conseillère. Et ça, c'est issu notamment de la philo moderne, mais pas seulement, hein, de cette idée que les émotions sont des obstacles à la rationalité. Alors qu'aujourd'hui, on en revient, et pour siéger dans un comité éthique, pour présider un comité éthique auprès d'établissements de santé, on s'interroge souvent sur la manière dont, au contraire, les émotions nous guident dans le raisonnement éthique. Et qu'il faut partir de cette émotion, en fait, pour pouvoir comprendre quel est le problème et pouvoir trouver ensemble une solution. Et j'ai appliqué cette méthode, en fait, à la colère en me disant d'où elle vient et pourquoi elle est là. Et au lieu de ne pas vouloir l'entendre, prendre le temps de l'écouter, de se mettre à son école, finalement. Et ensuite, la prendre comme un réservoir d'énergie, qui n'est pas forcément destructrice, mais qui peut être constructive si elle est non pas adoucie, justement pas, mais un peu transmutée, je dirais, avec une métaphore alchimique. Par le collectif, par la discussion collective, parce que l'indignation, c'est un mot plus noble, hein, l'indignation, mais l'indignation relève aussi de la colère. Et en fait, c'est cette force-là qui est une force de défense avant tout. Quand on va lire des études sur le comportement animal, on se rend compte que quand un animal est attaqué, ça c'est l'étude notamment de Laborie, hein, il y a plusieurs stratégies de défense pour survivre en fait. Et l'une de ces stratégies, c'est l'attaque. quand l'attaque n'est pas possible, il y a l'idée de mimer la mort pour attendre que ça passe. Et puis l'autre solution, c'est la fuite. Mais quand on peut ni fuir ni attaquer, on fait le mort ou la morte. Hein. On connaît, c'est la sidération en psychologie, c'est bien documenté. Sauf que souvent, on se met en état de sidération ou de fuite avant même d'avoir essayé d'attaquer. Parce que en tant que femme, en l'occurrence, et ça vaut pour tous les groupes qui ont été victimes de discrimination, hein, on a été éduqués à ne pas se défendre. Et c'est ça, en fait, qui m'a le plus marqué dans cette écriture. Je le savais déjà, quelque part, hein, théoriquement. Mais d'en prendre conscience dans ma chair, presque, de me dire, ah oui, c'est vrai, là, si je ne me suis pas défendue, c'est pas parce que je ne pouvais pas le faire. C'est pas parce que je n'avais pas envie. C'est parce que j'avais décidé par avance que ça ne servirait à rien. Et parce que tout de suite, je me suis représenté les risques comme beaucoup trop importants par rapport à ce que je pouvais gagner. Et en permanence, j'étais perdante. Je ne pouvais pas prendre de risques puisque je savais que c'était perdu d'avance. Et en effet, ça c'est pas seulement un effet d'optique, hein, ça vient aussi de l'idée que quand on va seul au combat, on a plus de risques de perdre quand même que de gagner. Donc ce à quoi je réponds dans la deuxième partie sur un certain nombre de leviers, dont la solidarité, spécifiquement la sororité, parce qu'il n'y a que collectivement qu'on peut répondre efficacement en fait, à une agression.
Alors justement, tu viens de dire « je ». J'ai dit que c'était un travail de recherche universitaire très précis, mais c'est aussi très personnel. Et tu te prends comme exemple justement de réflexion. C'est-à-dire, par exemple, sur la maternité, si je prends l'exemple de la maternité. Et c'est ce qui... pourquoi est-ce que... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était formidable, hein, parce que justement, ça permettait de lire plus facilement ce texte. Hein, voilà. Mais qu'est-ce qui t'a autorisé, hein, justement, à t'engager comme ça autant personnellement ? Tu t'engages toujours hein, dans le livre sur les femmes philosophes, tu t'engageais aussi, mais pas à ce point.
Je pense que là, il y a le fameux adage, presque maintenant, l'intime est politique. Bon, donc à un moment, il faut en faire quelque chose. Il y a l'idée de réhabiliter aussi l'expérience personnelle dans la réflexion philosophique, parce que je ne pense pas qu'on puisse réfléchir de manière désincarnée. Le pur esprit, pour moi, c'est non seulement une supercherie, mais en plus une impasse. Et que je suis très attachée dans mon enseignement, par exemple, concrètement, à développer des moments de biographie des philosophes, femmes ou hommes, pour comprendre le lien entre pensée et vie, en fait, hein, et parcours de vie, choix de vie aussi. Et puis, il y a aussi, il faut le dire, alors, je ne sais pas si c'est une mode, mais en tout cas une tendance dans l'écriture de non-fiction aujourd'hui, hein, en France, on nous incite aussi beaucoup à aller convoquer des anecdotes personnelles pour donner davantage de corps à nos idées. Ce qui implique une prise de risque, évidemment. Mais c'est vrai que quand on écrit, ça dépend la circonstance dans laquelle on écrit, mais moi je me mets en situation vraiment d'isolement et de rupture avec le quotidien. C'est facile de le faire parce qu'on a l'impression qu'on ne sera pas lu. Finalement, je l'écris comme j'écrirais mon journal intime. C'est après coup, quand c'est lu, en fait, je me dis « Mais mince, c'est vrai, j'ai mis ça !» Et on n'y pense pas sur le coup. Le garde-fou, les garde-fous qu'on se met, de ne pas dévoiler de choses personnelles ou intimes sur notre entourage, ça, évidemment. Mais en termes de rapport à soi, il y a un lâcher-prise, en fait, qui est nécessaire aussi parce que si on n'écrit pas de manière sincère, ça ne sert à rien d'écrire. Enfin, moi, c'est comme ça que je le conçois. Prendre la pause, faire jouer à l'auteur ou à l'autrice, ça se sent et je pense que ça n'a pas d'intérêt. La chance de publier, c'est vraiment... moi, dans mon cas, je la mesure, en fait, hein, cette chance. Et je n'ai pas envie de la gâcher. On me dit, il faut vraiment que ça serve, déjà, moi, à me faire avancer. Donc ça implique de m'y mettre aussi. Et là, j'ai l'image du Marchand de Venise de Shakespeare où il vend une livre de chair. Mais en fait, à chaque fois, on donne une livre de soi-même, en fait. Hein. Et si on n'a pas réussi à faire ce don, quelque part, c'est que le livre n'en valait pas vraiment la peine. Et donc c'est vrai qu'il y a l'idée d'une continuité entre le récit de vie, l'expérience et la réflexion. Et pour finir sur cette réponse qui est déjà trop longue, il y a aussi mon modèle en philo qui est Michel de Montaigne, qui a complètement changé mon rapport à la philosophie. Au moment où j'étais en échec répété à l'agrégation, j'avais une vingtaine d'années, et c'était très douloureux, et je voyais que la philosophie par le biais institutionnel. presque scolastique, je dirais maintenant. Hein. Et ça m'étouffait beaucoup. Et là, tout d'un coup, il a tout explosé. Puisque c'était à la fois de la littérature, de la philosophie, de la politique, et tout était digne d'intérêt. Et donc, ça, c'est vraiment en termes de mentor, en fait, ce qui m'inspire et la ligne que j'ai voulu s'y suivre dans cet ouvrage, comme dans les précédents et peut-être les suivants. On verra de quoi l'avenir est fait.
Ce qu'il y a aussi, que je voudrais ajouter, c'est que c'est très drôle, ce que tu écris. C'est-à-dire qu'il y a c'est de la colère drôle, enfin, je ne sais pas comment le qualifier. Par exemple, je peux lire un extrait hein, où tu parles de l'effet Mathilda et tu dis « Être féministe, c'est ainsi être consciente de vivre dans une situation de harcèlement moral structurel au carré. » Voilà. Donc, moi, je remarque qu'il y a quand même aussi beaucoup de personnes opprimées, notamment les féministes, qui s'amusent finalement, y compris d'elles-mêmes.
Oui, je crois que c'est un levier là aussi de survie, l'humour. On le sait, hein, dans les situations les plus tragiques, c'est là où on a le plus besoin de rire. Parce que ça permet tout d'un coup, ça introduit une distance vis-à-vis de la situation. Et ça permet de faire redescendre la pression, en fait, hein, stratégiquement. C'est comme une cocotte minute, il faut ouvrir une soupape, hein, parce que sinon, ça va exploser. Et puis, il y a aussi que c'est une politesse. On dit parfois le rire est la politesse du désespoir. Et je pense que c'est vraiment, vraiment ça. C'est une des solutions que je propose à la fin dans la deuxième partie, donc autant l'appliquer aussi, parce que sinon, ce serait un peu étrange de proposer des solutions qu'on n'applique pas soi-même. Et puis, l'humour, c'est aussi un formidable outil d'intelligence. Ça permet de faire passer beaucoup d'idées efficacement, de manière concise, de manière frappante aussi, et puis de fédérer au-delà des divisions, parce que tout d'un coup on se met d'accord sur une émotion qui surgit et qui est plutôt rassembleuse que factrice de division, en fait. Donc c'est à la fois une stratégie et puis peut-être aussi, là, ça ce serait le pendant contre lequel il faudrait lutter, une manière de s'excuser, présenter ses excuses, parce que parfois c'est une manière de ne pas se prendre soi-même trop au sérieux. Mais dans mon exercice de l'enseignement, c'est aussi souvent ça qui permet de à la fois ne pas intimider, surtout en philo, de ne pas exclure en fait. Et d'aller chercher les uns, les unes et les autres, tour à tour, pour les amener là où j'ai envie qu'on puisse dialoguer, quoi. Donc c'est casser une barrière de l'intimidation, parce que c'est aussi, pour revenir à ce pendant que j'appelle le rire du pendu, enfin c'est pas moi qui l'appelle comme ça, hein, ça vient de théories déjà bien documentées en psychologie, cette idée d'anticiper l'humiliation, la moquerie, en prêtant le flanc, mais en étant en contrôle. C'est-à-dire, c'est moi qui autorise à se moquer de moi-même, enfin, me moquer de moi-même, et je garde le contrôle de ce rire. Ce qui interdit, quelque part, implicitement aux autres de le faire. Et je pense qu'il y a de ça aussi dans pas mal d'humour. Hein. Je pense à l'humour juif, c'est aussi ça, le ressort. Hein. Donc, à la fois, réaction au tragique, et puis protection de soi. Et je pense qu'il y a plein de circonstances comme ça quand on est en situation de discrimination où ce rire-là, très spécifique, est salvateur et constructeur.
Et donc, pour terminer, dernière question. Tu en as parlé déjà, tu appelles finalement à une chose que j'ai pas beaucoup lue quand même dans la littérature féministe, à la sororité. Comme étant la solution en fait pour sortir de peut-être un jour du patriarcat.
Oui, parce qu'en fait la division c'est un fruit du patriarcat. Diviser pour mieux régner, c'est une leçon de politique qui n'est pas nouvelle. Hein. Et il y a une très belle chanson d'Anne Sylvestre qui s'appelle Frangine, où elle analyse ce mécanisme de la division, de la rivalité, en fait, cette fabrique de la rivalité. Il y a quelques ouvrages féministes qui commencent à sortir là-dessus aussi. Il y a Girls on Girls qui est sorti récemment. Parce que souvent, quand on parle de sororité, enfin moi j'en ai parlé pendant quelques temps, parce que je souhaitais mener un travail de recherche postdoctorale sur ce sujet, qui n'a pas trouvé preneur. On sent l'ironie dans ma voix. Et donc souvent ce qu'on me disait, c'était oui, mais quand même, dans les groupes non mixtes de femmes, il y a beaucoup de rivalité. J'ai envie de dire oui, mais partout en fait. Enfin, l'esprit de compétition, il est universel. Hein. Donc en quoi est-ce que tout d'un coup ça devient un problème davantage dans un groupe de femmes, et qu'est-ce qui fait que cette rivalité-là est peut-être particulière en effet? Bah, c'est peut-être parce qu'elle est construite et encouragée, et qu'on va davantage la visibiliser, et qu'on va en trouver, trouver là un facteur de, là encore, disqualification. Là où, spontanément, moi, mon expérience, là aussi, de femme, de vécu personnel, dans des moments de grande difficulté, ce sont des femmes qui m'ont aidée. Parce que, quand, au moment où je n'étais pas en couple, je me sentais exposée, en fait. Beaucoup plus en sécurité dans le fait d'avoir des amis, eux, qui étaient capables d'entendre ma vulnérabilité sans en tirer profit. Puisqu'il y avait toujours cette heureusement que c'est pas systématique, hein, mais en tout cas, cette peur qui nous inculquait dès l'enfance. Attention, tu peux être perçu comme une proie. Ne t'expose pas. Ne montre pas ta faiblesse. Qui pourra en profiter? Et donc, finalement, dans un cercle d'amis, qui m'était proche, qui me ressemblait, c'est là où j'ai trouvé des ressorts et des ressources d'aide, alors qu'elle-même n'avait pas forcément beaucoup en fait à donner en termes de temps, de conseils, etc. Mais rien que cette présence suffisait en fait à ce que moi j'aille chercher en moi ce qu'il fallait. Et c'est moi, mon expérience de la sororité, qui fait que je pense qu'il y a là quelque chose de très spécifique en termes de, on va dire, solidarité, qu'on associe, qu'on assimile souvent à une fraternité au sens républicain du terme, mais c'est encore autre chose, la fraternité au sens républicain du terme. C'est en effet neutre, mais le fait qu'il, originellement, soit un mot genré n'est pas non plus anodin. Il y a un certain esprit de fraternité qui est très particulier. On peut y articuler plein d'autres termes, comme charité aussi, empathie, care aussi. Hein. Mais la sororité, c'est encore quelque chose de spécifique, qui a commencé à être un peu réfléchi par Bell Hooks, notamment, mais qui a encore un champ conceptuel à construire, en fait.
Bon, ben merci beaucoup.
Merci à toi, Sandrine.
Un champ conceptuel à construire. Merci beaucoup.
Et merci pour ta sororité.
Ben oui. Et la tienne aussi. Merci.
Je vais vous lire un extrait de la conclusion qui vient avant la conclusion générale. Cette conclusion porte comme sous-titre « Les femmes bien élevées font rarement l'histoire ». Petite note, slogan féministe du livre de Laurel Thatcher Ulrich est exploité par le marketing. Lorsqu'elle fait l'objet d'une réflexion commune et d'une mise en question, la folie féministe à plusieurs est un délire très raisonné, pour ne pas dire très raisonnable. Il s'appuie sur le partage de chiffres, de données, d'expériences, de témoignages, sur un fast-checking qui donne à son analyse le poids d'un discours attesté, maintes fois vérifié, scientifique. La transmission de ce savoir est essentielle, que ce soit de femme à femme, au sein d'une amitié, d'une discussion informelle, par l'écoute d'un podcast, d'une émission, ou par la lecture d'essais ou de fiction. Les outils d'analyse féministe circulent. Ils transforment le small talk en débat d'idées. Semés partout, nos idées sont des graines qui germent et font advenir un monde nouveau. C'était ma rencontre avec Folle Furieuse, Que faire de nos colères, d'Élodie Pinel.